Même audio, une mémoire sonore.
Avant de me tourner vers Raymond, bon, effectivement, Vincent vient de nous faire faire un pas de géant dans la thématique qu'on avait choisie pour le débat. Et on va revenir après vers les témoins, parce que effectivement, il y a la question de comment est accueilli le témoignage, les questions de résilience. Boris Cyrulnik dit que pour pouvoir entrer en résilience, il faut pouvoir être écouté. Et je pense que dans le cas de Jeanne, comme dans le cas de Esther, qui s'est exprimé aussi longuement là-dessus dans certaines interviews, et dans son ouvrage, il faut revenir sur comment est accueilli le témoignage. Raymond, alors d'une part la réaction que vous souhaitiez apporter au complément aux propos de Vincent, et puis tant qu'on y est, je vous demanderais bien de vous positionner sur le rôle de la justice qu'a amené Vincent au travers de sa définition de génocide, puisque c'est un terme juridique, donc qui dit juridique dit justice. Est-ce que la justice, Raymond, est un préalable indispensable pour pouvoir écrire l'histoire?
Oui, je voudrais revenir quand
Pas de
même sur
problème.
ces témoignages qui nous rappellent une chose essentielle. Il y a beaucoup d'historiens qui travaillent froidement, qui examinent surtout le rôle des bourreaux, en fait. Et il y a assez peu de travaux sur les victimes. Ça, je l'ai observé dans le cas arménien. C'est un peu moins vrai dans le cas des Tutsis. Mais. Un génocide, c'est surtout des conséquences. Et quand je vous entendais, on imagine tous les traumas accumulés, la force dont doivent faire preuve les survivants pour se reconstruire, pour bâtir même des familles. Moi, j'ai le souvenir de mes grands-parents. Vous voyez, je quitte un peu mon statut d'historien là. Ils étaient clairement abîmés, quoi. Je me demande même comment ils ont pu bâtir des familles. Dans les rescapés, il y a plein d'éléments. Quand on parle de traumatisme, bon, il y a le souvenir des violences, mais dans votre cas, il y a le déracinement en plus, l'isolement. Hein, vous êtes orpheline. Vous avez eu une famille d'accueil qui vous a probablement transmis beaucoup d'amour, qui vous a pris en charge, je l'ignore. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que l'historien qui travaille sur ces domaines, il a l'obligation d'être à l'écoute. Et quand il travaille en particulier sur le sort des victimes, il devient un peu un thérapeute. Il y a un peu de ça. D'aider les victimes à comprendre de manière plus globale dans quoi elles s'inscrivent, ce qu'elles ont subi, c'est une manière un petit peu de les soulager. Voilà. Voilà ce que je voulais dire tout simplement. Alors, concernant la justice, alors c'est vraiment un sujet extrêmement complexe. Bon, vous savez qu'on a essayé de, ou on a pénalisé, par exemple, le déni, le négationnisme, avec la loi Guessot, d'autres lois qui se sont accumulées, mais ce n'est pas la peine de rentrer trop dans les détails à ce sujet. Bon, il y a une loi maintenant à peu près universelle qui pénalise le déni du génocide des Tutsis du Rwanda. Bon, mais le droit, il a ses limites. Je veux dire, ce qui est essentiel, effectivement, c'est qu'il y ait une vie créative de la littérature, de l'art. On en parlait tout à l'heure avec Dominique. C'est ça qui rend vivant les choses. Et puis, il y a un élément absolument essentiel et qui contribue peut-être aussi à responsabiliser les sociétés, c'est toute la dimension éducative. Bon, Vincent pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais Il y a quand même, en tout cas en France, et pas qu'en France, il y a eu un effort au cours de ces 15 dernières années pour former des jeunes citoyens qui, quand on parle de violence de masse, de génocide, savent de quoi il en retourne, qui comprennent ce que signifient ces violences extrêmes. C'est quoi ces violences extrêmes ? On vous déracine, on vous enlève de votre maison, on vous spolie, on vous prend vos parents, on vous prend vos proches, vous vous retrouvez seul au monde, avec souvent dans l'environnement, la société qui n'a pas été atteinte, une parfaite, non pas ignorance, mais un détachement, vous n'existez plus comme être humain. C'est ça un génocide. Et des gamins, vous en faites des citoyens responsables. C'est ça un peu l'objectif. Je veux dire, on n'enseigne pas les génocides pour enseigner les génocides. On essaye de faire comprendre à nos jeunes générations que d'avoir cette connaissance, ça peut aider à devenir un citoyen susceptible de se lever si des événements se... Vous voyez,
tout à fait.
Vous avez compris ce que je voulais dire. Et c'est toujours dans ces situations, des situations exceptionnelles, comme la guerre ou l'affaiblissement de la démocratie, ou l'installation de régimes autoritaires. C'est à ce moment-là que les jeunes gens qui ont été éduqués sont susceptibles de jouer un rôle et d'entrer en fait en lutte contre ces dangers extrêmes qui sont loin d'avoir disparu de la surface de la Terre.
Oui, ce qui appelle à la vigilance, puisque dans le cas du génocide des Tutsis au Rwanda, dans votre propos, ça me rappelle tout simplement qu'en 1945, je crois, j'ai parlé sous le contrôle de Vincent, de Jeanne, Raymond, on croyait être sorti du nazisme en Europe et est apparue au Rwanda une carte d'identité ethnique. C'est très exactement, je pense, que vous évoquiez le genre de choses sur lesquelles il faut être prudent. Je voudrais faire une mini parenthèse avant de me tourner justement et revenir sur la question des témoins avec Esther et Jeanne. Dans le témoignage de Jeanne, dans les propos de Vincent tout à l'heure, il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées, le FPR, etc. Donc comme il faut aussi faire œuvre de pédagogie, c'est une des actions du Conseil départemental et les raisons d'être des chemins de la République, vous pouvez retrouver très facilement en ligne en tapant « Chemin de la République, événement d'une part, la fameuse soirée du 24 mars 2021 auquel on a été plusieurs à faire référence depuis le début, où Vincent, Raymond, Jeanne et quelques autres sont très longuement pris le temps de démonter cette mécanique des génocides. Et pour la question spécifique du Rwanda, dans la même ligne, un colporteur du web, une des émissions qu'on avait enregistrées pendant le confinement, que l'on avait consacré avec Jeanne à son témoignage et en détail, il y a quand même une histoire assez approfondie du génocide Tutsi. Je ferme la parenthèse, mais ça peut peut-être permettre de dire, et parce qu'on ne peut pas sur un débat d'une heure et demie tout expliquer et revenir sur tout. Vous avez tous souligné, pour construire le récit d'un génocide, il faut des témoins, il faut des historiens, il faut de l'écoute. Or, l'écoute n'y est pas toujours, puisque Esther, de nombreux témoins, notamment de la Shoah, ont exprimé qu'ils n'avaient pas pu parler à leur retour, que toute attention, en tout cas pour la Shoah, était tournée vers les résistants, donc vers les survivants de retour des camps. Marie Veslik, qui est elle aussi une survivante, nous le dit régulièrement, puisqu'elle est toulousaine. Esther, dans une de vos interviews, vous avez dit « On nous a traités de tous les noms, de menteuses. On nous a dit qu'on racontait n'importe quoi. On a été culpabilisés d'être revenus. On s'est repliés sur nous-mêmes. Le seul problème, c'est qu'on était nés juifs. C'était vraiment pas possible de raconter au retour.
Ça a été assez pénible parce que nous sommes revenus presque un an après la libération de la France, et les gens, eh ben, ils voulaient recommencer à vivre normalement, et ils ne s'attendaient pas à ce qu'on revienne dans les conditions dans lesquelles nous sommes rentrés. Et quand nous sommes arrivés à l'hôtel Lutetia, on est arrivé presque de l'indifférence complète, hein, comme si vraiment on n'avait jamais existé. Alors finalement, je me suis retrouvé, moi j'ai été déporté à 15 ans, je suis revenu, j'avais 17 ans, j'étais orpheline, parce que à l'hôtel Lutetia, vous avez des centaines de personnes qui étaient là devant la porte avec des photos pour voir au fur et à mesure les survivants qui revenaient. Malheureusement, moi je suis rentré, je vous dis, j'avais 17 ans et la majorité est à 21 ans. Alors ceux qui ont eu de la chance d'avoir de la famille ou des amis qui venaient le récupérer, à l'hôtel Lutetia, on nous a fait une carte d'identité provisoire. On nous a fait passer une petite visite médicale très sommaire. Ceux qui étaient très malades ont été envoyés dans les hôpitaux. Les autres sont passés de bureau en bureau avec pas mal d'interrogatoires de la police militaire. Parce que quand les Allemands ont quitté Paris à la libération, il y a beaucoup de collaborateurs, ceux qui avaient collaboré avec les Allemands, qui sont partis aussi avec eux et essayaient de se faire rapatrier en tant que déportés. Alors évidemment, il y a eu un interrogatoire par la police militaire et qu'il fallait qu'on justifie pour quelles raisons nous avions été déportés. Alors pour nous, ça posait moins de problèmes que ceux qui sont passés par Auschwitz. C'est le seul camp où on tatouait le numéro sur le bras. Mais ceux qui n'étaient pas passés par Auschwitz étaient obligés de se justifier et d'expliquer pour quelles raisons. Il y avait toujours cette suspicion quand nous sommes rentrés en disant est-ce qu'on a vraiment été déportés ou si on n'est pas parti par nos propres moyens. Alors vous voyez, ça a déjà été pénible. Et ensuite, les gens de l'extérieur rentraient, et puis ceux qui avaient la chance d'avoir de la famille ou des amis qui venaient les récupérer passaient dans un autre bureau, on leur donnait certainement une somme d'argent, je ne sais plus quoi, et puis en disant ben maintenant vous avez vos papiers d'identité provisoire, vous avez de la famille qui est venue vous chercher, maintenant vous rentrez chez vous. Il n'y avait pas de cellule psychologique pour nous dire comment il fallait se comporter. Alors moi le problème que j'ai eu quand je suis rentré, je vous dis j'avais 17 ans, la majorité était à 21 ans. Alors nous étions quelques jeunes encore adolescents bloqués à l'hôtel Lutetia en attendant que quelqu'un, qu'une association veuille bien s'occuper de nous. Mais vraiment dans l'indifférence totale, et croyez-moi, même si j'avais voulu sortir, je pouvais sortir et m'en aller, hein, personne ne me retenait. Alors finalement, comme je suis revenu avec mon amie Marie, nous étions les deux seules survivantes, elle était fiancée avant la guerre, elle était beaucoup plus âgée que moi, donc elle est partie avec son fiancé, et nous on nous a dit, oh, bah, vous les jeunes, vous restez là pendant 48 heures, il y a certainement des associations qui vont venir vous récupérer. Alors, elle est partie en me disant, ben, je reviendrai dans 48 heures pour voir qu'est-ce qu'on a fait de toi. Et puis, au bout de 48 heures, effectivement, il y a une association qui est arrivée qui s'appelait l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. Alors, je leur ai demandé où ils allaient nous emmener. Alors, ils m'ont dit, il y a des orphelinats pour ça. Mais pour vous dire que moi, entre l'année 42 et 43, quand mes parents étaient arrêtés, que j'avais 14 ans, que j'étais retrouvé tout seul, je me suis retrouvé dans deux orphelinats à Paris, successivement pour me cacher dans les orphelinats. Ah, vous savez, quand je suis revenu à 17 ans, j'avais rien d'une gamine. Hein. J'avais l'air plutôt d'une femme âgée. Je ne me voyais pas être jusqu'à ma majorité dans un orphelinat. Donc j'ai refusé de les suivre. Et mon amie Marie est revenue 48 heures après. Elle m'a dit, puisque c'est comme ça, tu viens chez moi. Alors son fiancé avait un studio. Il est parti habiter chez ses parents. Et nous restés toutes les deux dans ce studio pendant une dizaine de jours, le temps en se lamentant, en disant, tu te rends compte d'un retour qu'on a eu. On a presque été mis à la porte. Moi, écoutez, j'ai vu des gens partir avec un ticket de métro, des adultes. Parce que les adultes, même si personne venait les chercher, ils partaient. Alors finalement, je suis resté chez elle pas quelques temps, puis je lui ai dit, tiens, on va retourner dans le quartier où j'habitais, voir peut-être éventuellement s'il y a peut-être des membres de ma famille qui sont venus. Et là, alors là, ça a été un attroupement, parce qu'évidemment, quand on revient avec 32 kilos et puis les cheveux rasés, un an après la libération, c'était pas courant. Hein. Alors on a eu un attroupement des gens qui sont venus vers nous en disant, qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors on a commencé à parler, là, comme vous avez expliqué, en disant, vous êtes folle, vous dites n'importe quoi, quelle idée des rumeurs pareilles, ça n'a pas pu exister. Et puis finalement, il y en a un monsieur qui m'a regardé, il m'a dit, vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres? On a été pratiquement culpabilisés d'être des survivants. Alors on s'est tu, parce que pour vous dire qu'à l'époque, quand le général de Gaulle a repris le gouvernement de la France en 1944 à la Libération, il lui a fallu des hauts fonctionnaires pour faire fonctionner la France qui était complètement démolie. Eh bien, il a pris ceux qui étaient en place. Et ceux qui étaient en place, c'était Papon, Touvier, tous ces gens-là qui avaient fait, à Bordeaux, qui avaient fait toutes les listes pour faire la déportation des Juifs de France. Or, ce n'est pas avec ce genre de gouvernement qu'on aurait eu le droit à la parole. Donc, ça a été une chape de plomb qui nous est tombée dessus. Et moi, je suis revenu, j'étais écorché vif, j'en voulais à l'humanité entière de cette indifférence, parce que je crois que la pire des choses, c'est l'indifférence. Comme l'avait dit ma sœur, faut parler, faut raconter, faut pas les oublier de l'histoire. Ben, vous savez, on a été vite oublié, on a été oublié pendant plus de 30 ans. Alors, vous dire, je suis revenu, évidemment, mon amie, elle avait largement l'âge de se marier, elle s'est mariée. Et bien, moi, je me suis retrouvé, je lui ai dit, la cohabitation à trois, hein, quand on vient de se marier, c'est pas évident. Et là, il y a les premières associations qui se sont ouvertes, qui s'appelaient la FNDRP. Et là, j'ai été les trouver en leur expliquant que finalement, je savais pas où aller, hein, j'avais pas de domicile, j'avais plus rien, parce que les domiciles qui avaient été scellés au moment des arrestations, il y a eu beaucoup de réfugiés qui avaient été bombardés en Normandie, qui ont été rapatriés sur Paris. On les a logés dans les appartements des Juifs qui avaient été déportés. Alors, quand je suis monté à l'appartement et que j'ai vu qu'il n'y avait plus les scellés, je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un qui est revenu. Alors, il y a un monsieur qui m'a ouvert la porte en me demandant ce que je voulais. Alors, je lui ai dit, écoutez, c'était l'appartement de mes parents. Alors, il a eu un mouvement de recul. Il me dit, vous savez, nous, on n'y est pour rien. On est des réfugiés. On nous a placés là. Alors, je lui ai dit, écoutez, de toute façon, je n'ai pas du tout envie d'habiter dans cet appartement où j'ai vécu avec toute ma famille, soyez tranquille, parce qu'il faut vous dire que les déportés qui sont venus, que les appartements étaient occupés, il a fallu faire des procès pour récupérer les appartements, et ça, les procès ont duré pendant des années avant que ces gens puissent récupérer leur appartement. Ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Alors finalement, dans cette association qui s'appelait l'Amicale d'Auschwitz, ils m'ont trouvé un petit studio dans le 11e arrondissement de Paris. Et puis là, ils m'ont dit, maintenant, il faut que tu cherches du travail. Alors, pour vous dire, moi, j'ai quitté l'école en 1940, j'avais 12 ans. Alors, vous savez, quand je me présentais, j'avais ni physiquement ni psychiquement le physique pour essayer de trouver un emploi. Et quand on me demandait des références, vous savez, c'est pas évident de trouver des références quand vous avez quitté l'école à 12 ans, hein. Alors évidemment, j'ai traîné la galère pendant ce temps-là. Alors toutes les semaines, parce que ils avaient ouvert un dispensaire à la FNDRP. Donc évidemment, nous sommes revenus avec pas mal de pathologies, hein, à l'époque. Hein. En fait, le fait de dormir, c'était pas évident. Alors évidemment, on était soignés, on était suivis. Ils nous donnaient des cachets pour dormir, enfin des tranquillisants, ce qu'ils pouvaient pour essayer de nous soulager. Et puis finalement, quand je me suis présenté dans différents endroits et puis qu'on me demandait des références, je ne pouvais pas en donner, hein, des références. Et puis de traîner comme ça, je vous dis, devant l'indifférence totale de tous les gens, un soir, j'ai avalé ma boîte de cachet, je me suis retrouvé dans un hôpital psychiatrique pendant 6 mois. Donc, vous voyez, j'ai eu un retour glorieux. Alors je suis resté 6 mois dans cet hôpital. Alors évidemment, on vous drogue, on se réveille, on se rendort. Et puis finalement, au bout de 6 mois, il faut croire que le traitement a fait de l'effet. J'ai pu sortir de cet hôpital. Je suis retourné donc à la FNDRP. Et puis là, ils m'ont dit, écoute, maintenant, t'arrêtes tes bêtises. Tu cherches du travail. Et puis pour moi, c'était quand même gênant parce qu'à chaque fois que j'allais là-bas et qu'ils me donnaient un peu d'argent, j'avais l'impression que je faisais la mendicité. Alors que ce n'était pas du tout dans mon caractère. Et puis finalement, au bout de quelques temps, j'ai fini par faire les petites annonces. Alors évidemment, chaque fois que je me présentais, c'était toujours le même problème. Les références, ça ne marchait pas, hein, j'en avais pas. Et puis un jour, il y avait une annonce dans un journal qui demandait une vendeuse dans un magasin de couture. Je vais encore risquer de me présenter. Et puis là, je suis tombé sur une dame qui avait l'air qui m'a demandé des références. Alors je lui ai dit, écoutez, j'ai pas de références. Et puis je lui ai commencé à lui expliquer très sobrement ce qui m'est arrivé. Elle m'a dit, écoutez, je suis ennuyé, moi je suis pas la patronne, est-ce que vous pouvez revenir demain, je vais leur en parler. Alors je suis revenu le lendemain, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez, ils vont vous prendre à l'essai pour une semaine pour faire de la manutention, est-ce que vous pouvez faire ça? Je dis, oui, de la manutention, je pouvais le faire. Et puis en faisant la manutention, c'est de raccrocher des vêtements, de les replier, de faire un peu de ménage. Et puis j'écoutais les vendeuses quand elles avaient des clientes. Et puis arrivé à la fin de la semaine, elle est venue me trouver en me disant ben, on est embêté parce qu'il y a une vendeuse qui est tombée malade, est-ce que vous voulez essayer de la remplacer? Ben, je dis oui, bien sûr, je vais essayer. Ben, faut croire que j'ai fait l'affaire, je suis resté 8 ans dans ce magasin. Alors pour moi, ça a été. On arrivait déjà à l'année 48, hein, j'avais 20 ans. Alors j'ai traîné la galère de 45 à 48. Hein. Et puis vous savez, de se reconstituer toute seule, c'est pas évident. Hein. Toujours avoir peur de retomber dans la déprime. Quand on voit cette indifférence totale. Et puis finalement, ça allait très bien. Bon, je travaillais, j'avais mon petit studio, ça allait très bien dans la journée. Mais vous savez, le soir, quand je me retrouvais tout seul, ben, je m'asseyais dans un coin et j'avais l'impression que j'étais jamais sorti du camp. Vous savez, quand on a été à Auschwitz, on n'en est jamais sorti. Et puis finalement, ben, j'ai repris goût à la vie, j'avais mes collègues, tout ça, ça se passait bien. Et puis un jour, il y a une collègue qui m'a dit, oh, ben, tiens, est-ce que tu pars en vacances au mois d'août? Ben, je dis non, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des moyens pour se payer des vacances avec le salaire que nous avions. Alors je dis non, moi, je ne pars pas, je n'ai pas d'argent. Alors elle me dit, oh, ben, moi j'ai loué un petit studio. En Bretagne, à Saint-Brévin-les-Pins, à côté de Nantes. Elle me dit, je pars avec une amie, comme ça on paye le loyer à deux. Ben, je sais bien. Et puis au bout d'un moment, elle est venue me trouver en me disant, ben, mon amie, elle me fait faux bon à la dernière minute, est-ce que tu pourrais venir avec moi pour que ça, on partage le loyer. Alors je suis parti avec elle, ça a été mes premières vacances, donc en 1948. Donc on est parti là-bas, alors évidemment, sur la plage, on a fait la connaissance d'un groupe de jeunes comme ça. Bon, on a eu des vacances formidables, hein, les premières vacances. Et puis là, des jeunes qui étaient avec nous sur la plage m'ont dit, oh, bah, tiens, on a un copain qui va venir la semaine prochaine, tu vas voir, il est gentil. Il est... Et ben oui, ben, le copain est arrivé, on a fait connaissance et je me suis marié avec lui.
Très belle histoire, très belle histoire.
J'ai eu trois enfants, j'ai six petits-enfants, j'ai six arrière-petits-enfants, dont j'ai deux arrière-petites-filles qui ont déjà 20 ans, dont une qui est à sa deuxième année de Sciences Po à Grenoble. Vous voyez, j'étais revenu orphelin, j'ai quand même réussi à reconstituer une famille formidable avec une très belle réussite, qu'on fait des grandes études. Ce que je n'ai pas pu faire moi, malheureusement.
Alors, c'est la vie qui reprend le dessus. Je regarde Jeanne, je pense qu'elle sait pourquoi, parce qu'on se connaît un petit peu. Mais c'est toi qui le diras, c'est pas moi.
Mémodio, une mémoire sonore.
Avant de revenir sur ces questions de témoignage et justement de voir un peu les similitudes avec la situation, notamment au Rwanda, puis on ne va pas oublier d'interroger un peu Raymond sur la question de la résilience suite au génocide arménien, je me tourne vers Vincent ou Raymond, je mets égalité sur la question, à la libération des camps. Esther vient de nous faire un témoignage qui démontre bien que la société n'était pas du tout prête à accueillir des survivants de l'horreur. On a montré des photos, on a monté des films, parfois avec pas mal d'hésitation, mais ça a été un intérêt médiatique assez intense, mais très bref, finalement. Et si on a montré l'horreur, il semble qu'on n'ait pas expliqué à ce moment-là la logique génocidaire. Elle n'a pas été tout de suite intégrée au récit. Pourquoi ? Bon, vous, Vincent,
j'aurais voulu revenir.
Ah, pardon, le temps que vous décidiez, Esther, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, je voulais vous dire que quand Pétain est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait, c'est de supprimer la République française pour faire l'État français. Alors, il y a eu le problème, c'est qu'après la guerre, aucun président de la République, à partir de De Gaulle, n'a voulu reconnaître le fait que ce n'était pas la République française qui avait déporté les Juifs, c'était l'État français. Et ça, ça s'est reproduit à tous les présidents successifs. Ils ont joué sur les mots. Ce n'est pas la République française qui a déporté les Juifs de France, c'est l'État français. Alors finalement, il a fallu arriver jusqu'en 1995 pour que le président Chirac finisse par reconnaître la responsabilité de la déportation des Juifs de France. Il faut dire quand même qu'à l'avantage de la France, c'est le seul pays d'Europe qui a sauvé le maximum de Juifs en France.
Oui, Vincent.
Je pense que Raymond reviendra certainement sur, au fond, la manière dont la France aussi à la fin de la Première Guerre mondiale, a quand même très peu soutenu les rescapés arméniens, notamment en Cilicie, et que l'accueil, je veux dire, par la France des rescapés, je veux dire, avait un but aussi très clair, qui était d'avoir une main-d'œuvre pour la reconstruction. Je pense que là, il y a des choses importantes que Raymond doit nous dire. Pour ce qui est de la libération de 1945, Esther a dit déjà beaucoup, c'est-à-dire qu'effectivement, la France avait collaboré à la solution finale. Bon, ça a été effectivement clairement dit par le président Chirac, donc le 16 juillet 1995. Hein, il a mis fin, je veux dire, à des décennies de déni. Hein, et qu'au fond, ces éléments-là ont expliqué que la parole des rescapés, je veux dire, ne pouvait pas être entendue. C'est-à-dire, on a souvent dit, au fond, les rescapés n'ont pas parlé. C'est pas qu'ils n'ont pas parlé, c'est qu'on les a pas écoutés, on n'a pas voulu les écouter. Parce qu'ils renvoyaient aussi à la société française et à la République d'immenses responsabilités. Je veux dire, non seulement de ne pas les avoir défendus, de ne pas les avoir sauvés, mais d'avoir précipité leur mort. Et il y a une honte absolument terrible, je veux dire, pour la France, d'avoir livré des juifs français et juifs étrangers, je veux dire, au bourreau. Et je pense que souvent on nous dit, mais voilà, vous critiquez votre pays, vous salissez votre pays en ce qu'on a fait notamment sur le génocide des Tutsis, d'avoir reconnu que la France avait des responsabilités accablantes. Hein. Mais non, l'honneur d'un pays, en tout cas l'honneur de la France, comme ça qu'on soit avec Raymond, c'est, je veux dire, d'assumer les pages noires et de dire la vérité. Et la force et la vérité. Et du reste, si vous le voyez bien, en 2021, donc on remet notre rapport. Le président Macron va à Kigali, fait un discours où il reconnaît exactement, je veux dire, les conclusions de notre rapport. Le président Kagame, je veux dire, le salut pour les paroles de vérité. Et ça n'a pas été un effondrement, une repentance de la France. La France en est sortie grandie. Donc il faut bien considérer effectivement cela. Et c'est effectivement à la libération en 1945, il y a eu effectivement ce complot du silence parce que tellement de gens étaient impliqués, je veux dire, et on l'a vu après, parce qu'il y a eu le courage des juges, mais des associations. Et je crois que, et moi je vais terminer là, au fond, ce qui a été très important, je veux dire, pour la reconstruction des rescapés qui étaient des victimes et qui portaient aussi le deuil de tous ceux qui étaient morts, hein, eh bien, ça a été la prise en charge par les associations, ce qui est devenu l'Union des déportés d'Auschwitz. Hein, malheureusement, Raphaël Israël, le dernier président, eh bien, n'est plus de ce monde, mais il a écrit aussi une très belle autobiographie, hein, l'espoir, l'espérance d'un baiser. Le livre d'Esther, Jean-Luc, vous l'avez rappelé. Et le rôle notamment des associations yiddish communistes, par exemple, il y a une jeune historienne, Zoé Grimbert, qui donc a mené des études, une thèse sur ces associations, hein, qui ont été extrêmement importantes, comme pour les Arméniens. Et il faut saluer, et du reste, on va être reçu par l'association arménienne de Haute-Garonne, et il faut les remercier pour cela. C'est essentiel. Hein. Et vraiment, et pour finir, pour revenir peut-être aussi sur la littérature, Zoé Grimbert est la nièce de Jean-Claude Grimbert, qui peut-être vous le connaissez, c'est un dramaturge, c'est lui qui a écrit aussi ce conte très beau, hein, La plus belle marchandise du monde, hein, et il a été édité donc au Seuil, à la librairie du 21e siècle, et aujourd'hui on a appris une nouvelle triste, hein, c'est que le fondateur et le patron de cette grande collection, Maurice Hollander, hein, est décédé de manière très prématurée, et donc ça veut dire que voilà, aujourd'hui quand même, le fait même que Esther soit là, qu'elle ait été reçue par Jean Castex, qu'elle ait été reçue sous l'Arc de Triomphe par le président de la République, là il y a un changement quand même très important, hein, et il faut continuer parce qu'on voit bien que les périls du monde nous entourent, que le négationnisme est là, que l'antisémitisme ne cesse de progresser dans notre pays, et donc il faut effectivement se mobiliser, mais quand même il y a une vigilance nouvelle et il y a une écoute, notamment l'écoute d'Esther et de Jeanne.
Alors, j'ai une fonction extrêmement populaire
dans un débat, c'est celui qui regarde la montre. Donc tout est passionnant. Il nous reste une petite demi-heure. Donc je vois Raymond qui s'est emparé du micro d'un air très très décidé. Donc...
oui, je voulais mettre en parallèle justement par rapport à l'expérience d'Esther ou celle de Jeanne. Le cas en fait des rescapés arméniens, c'est assez intéressant. On se retrouve avec des hauts commissaires français et britanniques, donc ils ont gagné la Première Guerre mondiale à Istanbul, et la stratégie générale, c'est de récupérer les reliquats de rescapés arméniens qui sont dans les déserts de Syrie et de Mésopotamie, et on les ramène vers l'angle oriental de la Méditerranée qu'on appelle la Cilicie. Bon, il y a à peu près 150 000 rescapés qui se retrouvent là. Il y a des blocs. Il y a un premier bloc là. Il y a quelques rescapés qui ont réussi à fuir vers le Caucase. Et un troisième où vous avez des retours dans la Istanbul et sa périphérie, Constantinople à l'époque. Bon, ce qui est intéressant, c'est que... vous avez une société turque qui ne tolère pas en fait le retour de ces rescapés et qui sont confrontés effectivement la même chose, c'est vraiment répétitif, il faut récupérer sa maison. Il y a un nombre incalculable de rescapés qui sont assassinés à leur retour par les gens qui ne veulent pas restituer leur domicile. Après, vous avez des bourreaux qui se baladent tranquillement dans les rues de ces villes de province où quelques personnes rentrent. Alors, je vais publier bientôt un travail. J'ai fait des statistiques assez précises par région. Vous avez 28% de rescapés et d'autres, ça descend à 2 ou à 6%. Voilà, pour vous donner une petite indication. Et qui vont être sous Mustafa Kemal, qui continue le travail, en fait. Hein. C'est un jeune Turc. Il y a peut-être mis quelques petites formes, parce qu'il y avait des hauts commissaires britanniques et français, et pas trop montré la démarche, mais il a fini le travail. Et ça explique, d'ailleurs, que... Le courant migratoire en France arménien, c'est fin 22 et 1923-1924. L'explication, c'est qu'en fait, le régime kémaliste finit le travail dans le meilleur des cas, en évacuant ces gens vers l'extérieur. Et la France et les États-Unis ont été quasiment les deux seuls pays qui ont pris en charge ces migrants dont on ne savait plus quoi faire et qui sont retrouvés apatrides. D'ailleurs, le statut d'apatride a été fabriqué pour eux. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Alors, c'est vrai que chaque génocide donc, génère...
Il y a des parallèles incroyables. C'est des expériences très proches qu'on retrouve parmi les rescapés, quel que soit le génocide.
Alors, avec peut-être un particularisme sur lequel je voudrais qu'on revienne sur le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est qu'effectivement, les Arméniens se sont un petit peu éparpillés sur la planète, diaspora. Ça a été quand même pas mal le cas aussi des Juifs. Or, au Rwanda, il y a peut-être cette spécificité, c'est que les victimes et les bourreaux se croisent tous les jours. C'est ce qu'exprime beaucoup Dominique Sélis dans ses écrits. Il y avait juste une question que je souhaitais vous poser, Raymond, tant qu'on est sur le génocide arménien, puisque il faudra... alors. Les deux tiers des Arméniens de l'Empire ottoman, sont environ un million de personnes décèdent, c'est le nombre de victimes à peu près du génocide. Il faudra attendre 1985 pour que le génocide soit reconnu par l'ONU, 2001 par la France. En 2021, c'était le 24 mars, nous l'avions annoncé en ouverture de la soirée, puisque nous étions ici sur la soirée, par les États-Unis. La Turquie est toujours dans le déni, ne reconnaît pas. Est-ce que ces reconnaissances tardives ont entravé ou impacté la construction du récit, justement ? Est-ce que...
Reconnaissance par qui ? Ah, en général.
Enfin, oui, voilà. C'est arrivé quand même très tardivement.
Bon, alors, en fait, cette reconnaissance, il faut la contextualiser. Comme l'État qui a commis le crime et qui l'assume jusqu'aujourd'hui, hein, puisqu'il, quel que soit le gouvernement, hein, puisqu'il y a eu quand même une forme d'alternance en Turquie à plusieurs reprises, quelle que soit la couleur du gouvernement en place, le déni est une constante. Et il y a une raison extrêmement simple, c'est que cette République s'est bâtie sur ce crime et que les fondateurs de la Turquie contemporaine, à commencer par Mustafa Kemal, ce sont des jeunes Turcs. Et je vous rappelle que jusqu'aux années 1960, les chefs d'État, par exemple en 1960, c'est Celal Bayar qui devient président de la République de Turquie. Eh bien, Celal Bayar, c'était le chef de l'organisation spéciale, c'est l'équivalent des SS, si vous voulez, dans l'Empire ottoman, dans la région de Smyrne. Voilà. C'est comme si vous aviez le président ou le chef de la Kazou chez les Tutsis qui devient président de la République une trentaine d'années après, hein, puisqu'il y avait des très jeunes parmi eux. Voilà ce que je peux vous dire. Et il n'y a évidemment pas de perspective. Pour qu'il y ait une perspective, il faudrait qu'il y ait un sens de la responsabilité de la communauté internationale qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas trop visible. Je vois quelques efforts ces derniers temps quand même, mais encore, on peut les interpréter de manière assez différente.
Esther, vous voulez réagir ?
Oui. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a eu le procès de Papon. Parce qu'il faut vous dire que Papon, c'est lui qui a fait les fiches à Bordeaux. Oui. Pour faire les fiches, pour faire les déportations des Juifs de France. Et finalement, il a été au gouvernement, il a été préfet de police sous Mitterrand. Il oui. était préfet de police. Et c'est lui qui, à l'époque, a fait toutes ces manifestations, enfin, tous ces crimes qu'il a commis. C'est-à-dire qu'il y a eu une manifestation au métro Charonne à Paris, où lui, étant, comment ça s'appelle, le ministre de l'Intérieur, a tué des gens à cette manifestation. Ensuite, en 1962, je crois, ou un peu plus tard, il y a eu des manifestations des Maghrébins qui sont partis pacifiquement manifester. Et là, Papon était toujours préfet de police. Et là, il y a eu des massacres. Ils ont été, tous ces gens, une partie ont été massacrés et jetés dans la Seine. En 1962, et vous vous rendez compte que le procès Papon, enfin, il y a quoi, une dizaine d'années seulement, qui s'est terminé.
Oui, tout à fait. Et le fameux fichier juif, qui fait partie, alors si Vincent et Raymond m'autorisent à le dire comme ça, des ingrédients du génocide, puisque effectivement, c'est on recense, on stigmatise, et voilà. Dominique, sur la situation au Rwanda, dans votre ouvrage, vous écrivez, alors j'ai relevé un dialogue qui se passe dans un café entre votre personnage, Erika, et un de ses amis, Damien. Il s'agit d'accepter ou pas une invitation chez quelqu'un, et alors lui dit: tu ne comprends pas, Damien, tu es né dans ce pays, entre lui et moi il y a une rivière de sang, la Niabarongo, j'espère que je l'ai bien dit, je vois Jeanne qui me regarde, il me dégoûte, il doit avoir une énorme famille. Et Damien a soupiré: faut tourner la page, Erika, ça fait bientôt 25 ans, c'est fini, pourquoi vous restez là-dedans, les Tutsis, à ressasser votre génocide? Donc c'est vraiment ça la situation au Rwanda aujourd'hui. Et après, peut-être, Jeanne, vous pourrez compléter sur le fait de, est-ce que c'est aussi ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé en France et que vous avez essayé de commencer à parler de ce génocide? Dominique, pour commencer.
Oui, merci pour la question. Alors, le passage dont tu parles, c'est, pour contextualiser, c'est la narratrice Erika qui est avec un de ses amis d'enfance qui est un Belge. Et c'est ce Belge qui lui dit qu'il faut oublier, qu'il faut tourner la page. Ce qui révolte la narratrice. C'est un propos qui n'est pas tenu au Rwanda, si ce n'est par les bourreaux et leurs enfants, faut-il le dire. Et moi, à titre personnel, donc je quitte le personnage d'Erika, mais dans ce passage, en tout cas, c'est une fiction, mais là, je lui prête ma pensée, puisque moi, là d'où j'écris, je ne suis pas une survivante, Le génocide est passé par ma famille maternelle, mais ne l'a pas décimé. Et ma mère vit à Bruxelles. Tourner la page, mais ce n'est pas possible de tourner la page, puisque la page a été arrachée. On ne peut pas tourner la page. Et sur cette page, en fait, il faudrait se demander qu'est-ce qu'il y avait sur cette page. Sur cette page, il y avait nos histoires, il y avait les gens qu'on aimait, il y avait ce qui nous constitue, il y avait nos histoires. Et ce n'est pas possible de tourner ça. Alors, je prends, ça n'engage que moi. Moi, j'essaye de faire, je suis prof de philo, prof de lettres aussi, j'essaye de faire comprendre, quand ce sont les publics qui ne sont pas rwandais, la différence entre génocide et crime de masse, ou en tout cas un autre trauma. Donc, c'est un... Comment est-ce que je veux dire ? Je résume, donc je maltraite un petit peu le propos. Voilà, imaginons quelqu'un que nous aimons très fort qui meurt parce qu'il est renversé par un chauffard. Ben, il est possible de se reconstituer. Par exemple, je peux m'engager pour sensibiliser les jeunes à l'alcool au volant. Je peux... je ne sais pas comment vous appelez ça en France, je peux devenir Bob, vous savez, conducteur non alcoolisé en cas de sortie. C'est-à-dire, il y a cette mort qui nous fait violence, je peux lui donner un sens, entre guillemets. La question du génocide, et c'est pour ça que je reprécise que je ne suis pas une survivante, la question du génocide, ce n'est pas tant une question de mort. Nous allons tous mourir, le seul suspense, c'est quand. La question, c'est pas la mort, la question, c'est la déshumanisation. Cette déshumanisation qui fait qu'à un moment, l'humain devient un objet, une chose. Et moi, tout le propos que j'essaie de faire, c'est mon propos parce que c'est ce que je vois dans la société rwandaise, c'est comment est-ce que je fais, enfin, je sais pas moi, c'est je général, comment est-ce que nous faisons pour redevenir un sujet? Quand on a été rescapé, quand on a été témoin, quand c'est votre famille, etc. Alors sujet, je le définis simplement comme auteur de notre action. Si vous entendez comment ce que Esther dit, les termes qu'elle a utilisés, j'ai été récupéré, il y a une indifférence totale. Voilà, l'être humain est chosifié. Donc la question ici, après, qui nous occupe nous dans la société rwandaise, c'est que le génocide, par définition, c'est insensé. Il n'y a pas de sens dans toutes les acceptions du terme insensé. Donc, comment est-ce que je me reconstitue quand ce qui m'a été fait n'a pas de sens et que je ne peux me raccrocher à rien? Donc, dans le cas du génocide, et Esther le dit en prenant l'exemple de trop de médicaments, dans le cas d'un génocide, c'est vraiment l'entame de la vie qui est faite. Alors, moi, je vais conclure donc en disant non, pour moi, on ne peut pas tourner la page. Et j'ai envie d'ajouter, il ne faut pas tourner la page parce qu'il faut rester devant ça pour réfléchir. Mais réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'entends souvent dire à propos de mon pays maternel que des histoires autour de la démocratie, de la liberté, de parole, etc., etc. Mais il faut quand même bien se dire que un génocide, par définition, détruit la notion de droit. Au moment, Jean-Luc l'a rappelé, quand on a voté les lois anti-juives, la déclaration des droits de l'homme existait déjà. Quand mes ancêtres belges ont fait écrire dans les cartes d'identité rwandaises l'ethnie, tout ça existait. Donc un génocide, c'est par définition l'effondrement du droit. Ce n'est pas la cause, mais c'est un résultat. Donc pourquoi, et je raccroche à ce qu'il disait, pourquoi est-ce que le travail de justice est important? C'est justement pour réinjecter le droit, c'est justement pour lutter contre l'impunité, mais il faut se dire, en tout cas en ce qui concerne le Rwanda, c'est que jusque 94, je suppose que tout le monde est bilingue, jusque 94, les Rwandais n'avaient pas rencontré le droit, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc lutter contre l'impunité, reconstruire la justice pour réinjecter le droit, et droit, je pense, dans le cas chez nous, qui nous permet de réhumaniser la société. Ici, en Europe, vous devez régler des problèmes de vivre ensemble. Nous, on est en deçà. On doit quitter ce niveau de déshumanisation et redéfinir la question de l'humanité.
Alors rapidement, justement, deux questions, enfin une remarque et une question. Vous dites que derrière la rhétorique officielle d'unité nationale de réconciliation Rwanda, chacun a, je mets des guillemets, incarcéré ses peines à perpète. Donc les blessures sont sans cesse ravivées. Donc peut-être un mot de commentaire, puis après je vais demander à Jeanne de réagir sur cette question. Puis peut-être, est-ce que de votre point de vue, c'est le rôle des artistes et des écrivains justement que de ramener à l'humanité ?
Ça, c'est donner une grande mission. En tout cas, c'est peut-être pointer des choses qui sont difficiles à entendre. Et quand même, Jean-Luc, parce que cette question est importante et je me rends compte en Europe que ce n'est pas compris comme nous le vivons au Rwanda. Le processus d'unité et de réconciliation. Alors, le terme utilisé était réconciliation, mais le signifiant, c'est plutôt vivre ensemble. Donc, c'est un processus. Un ensemble de dispositifs sont mis en place, un ensemble de solutions endogènes sont mises en place. Là n'est pas la question. Ce que moi j'essaie de montrer, c'est que malgré tout le dynamisme de la société rwandaise, malgré beaucoup de choses qui sont faites, les cœurs sont cassés. Les cœurs sont cassés. Alors, c'est pour ça que je reprécise, moi je ne suis pas une survivante, il est possible de vivre avec un cœur brisé. Il est possible de vivre avec un cœur brisé. Vous êtes
d'accord avec ça, Esther ?
Absolument. Disons que moi, j'ai pris ma retraite en 1982. Je suis descendu dans les Pyrénées-Orientales, où là, j'ai commencé. On n'a pas encore le droit de parler, mais comme j'ai retrouvé des anciens déportés du camp de Mauthausen, qui étaient des anciens brigadistes espagnols, eux étaient considérés comme des déportés politiques, ils avaient le droit d'aller dans les collèges et les lycées. Et puis un jour, ils m'ont dit, pourquoi tu ne viendrais pas avec nous ? Mais nous, on n'avait pas le droit de parler. Ils m'ont dit, écoute, ça n'a pas d'importance, tu viens avec nous. Et j'ai commencé à témoigner donc avec ces anciens brigadistes espagnols dans les lycées, dans les collèges, à partir de 1985, vous voyez, ça fait un moment, et j'ai rencontré des centaines et des centaines de jeunes pour bien... Alors disons que maintenant, le témoignage dans les lycées, dans les collèges est beaucoup plus facile parce que c'est au programme, c'est au programme de l'éducation nationale. Alors que... la génération de mes enfants, tout de suite après la guerre, quand ils revenaient de l'école, il y avait deux lignes sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, toute cette génération de jeunes d'après la guerre sont passés au travers de tous ces épisodes que nous avons vécus. Et maintenant, ce sont les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui sont beaucoup plus motivés. Alors, si vous permettez, je vais prendre le temps.
Mettez le micro.
J'ai écrit un texte pour les enfants, pour les jeunes qui sont dans les lycées et les collèges. Aujourd'hui, alors c'est ce que je leur lis à la fin de mon intervention dans les lycées. Aujourd'hui, je voudrais lancer un appel solennel en faveur de la paix. Les guerres actuelles ne se déclenchent pas seulement pour des raisons politiques, mais si l'on se réfère aux conflits qui ensanglantent notre monde actuel pour des causes idéologiques, ethniques ou religieuses. Elles éclatent parce que les gens n'ont pas la même couleur de peau ou la même religion. Nous ne sommes plus qu'une poignée de survivants. Et c'est à vous, les enfants, que je m'adresse maintenant. Lorsqu'on n'aime pas son voisin parce qu'il n'est pas tout à fait pareil à vous, cela s'appelle du racisme, et c'est ce racisme qui a conduit à la déportation de millions de personnes innocentes. C'est au nom du racisme que les pires horreurs ont été commises. Tous les enfants du monde sont pareils à vous. Je compte sur vous pour que lorsque nous ne serons plus là, nous qui avons connu les camps et pouvons certifier qu'ils ont bien existé, vous fassiez preuve de tolérance et que vous reconnaissiez le droit à la différence. Je le répète, ne vous laissez pas entraîner sur cette voie qui est celle du racisme, de la xénophobie, c'est-à-dire la haine de l'étranger, car elle conduit aux crimes les plus horribles. Acceptez d'être différents les uns des autres. Nous vous faisons confiance, vous êtes notre avenir, ne nous décevez pas. Faites preuve de tolérance, de compréhension, si vous voulez continuer à vivre dans un monde de paix. Vous vivez en France, dans un pays démocratique, alors essayez de la protéger le plus longtemps possible.
Alors ce texte serait une magnifique conclusion. Malgré tout, je voulais poser une dernière question à Jeanne et vous dire qu'avec l'accord de Esther, on en a parlé tout à l'heure, vous retrouverez sur les réseaux sociaux et sur le site du département son interview ainsi que celle de tous nos invités. Et ce texte va être mis en ligne sur le site du conseil départemental sur la page des chemins de la République parce que voilà, on tient à le faire et c'est une très belle chose. Jeanne, avant de conclure, je ne voulais pas qu'on se quitte sans... Un jour, vous m'avez dit, ce que j'ai vécu ne m'appartient pas à moi, ni seulement à tous ceux qui l'ont vécu. J'ai été victime d'un crime contre l'humanité, donc l'humanité doit savoir. Est-ce que vous voulez commenter ça?
Oui, en effet...
Il est ouvert.
Quand le génocide est arrivé au Rwanda, c'est vrai que nous avons eu l'impression d'être foudroyés sans comprendre vraiment ce qui se passait. C'est-à-dire que le génocide a quelque chose de bizarre, c'est qu'on avait beau avoir le processus, et puis au point où les gens nous demandent « Mais pourquoi vous n'avez pas fui avant ?» puisque vous avez tous les signaux annonciateurs, mais on n'y croit pas toujours. On se dit « Ça ne va pas être possible de tuer tout le monde. Les enfants, non, ça ne va pas être possible, le bébé, ça ne peut pas. » Et puis ça arrive, et puis le matin, on était ou la veille, on rigole, on joue, on est plusieurs, et puis c'est ça le génocide. On est à plusieurs, puis il n'y a plus personne. C'est des gens qui étaient en bonne santé, puis qui disparaissent. Et donc, quand le génocide a eu lieu au Rwanda, et que j'ai été rapatriée du coup en France, en plein milieu du génocide, je me suis dit, oui, effectivement, c'est quelque chose qui me dépasse, qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas. Il n'est pas possible de rayer de la carte un million de personnes, d'hommes, de femmes, d'enfants, et que l'autre partie de l'humanité ne sache pas que sur cette terre-là, d'autres hommes, par leur volonté, ont voulu rayer de la carte un million de personnes. On doit savoir, dans un premier temps, et ensuite, on doit comprendre ensemble. Moi, je ne comprends pas, je veux bien témoigner pour comprendre ensemble, parce qu'effectivement, il y a des mécanismes. Alors, on continuera toujours à dire le pourquoi, mais en tout cas, on peut déjà, ce qu'on fait ce soir, en comprendre les causes. Et oui, c'est pour ça que je disais, non, ça ne m'appartient pas. Une telle histoire ne peut pas appartenir ni aux rescapés seulement, être dans une espèce de huis clos, ni au Rwanda, mais c'est toute l'humanité qui doit se questionner. L'humanité a été touchée en plein cœur, et c'est tous ensemble qu'on doit y réfléchir, me semble-t-il.
Alors, merci Jeanne. Je me suis autorisé une facilité. J'aime bien conclure avec une citation ou laisser dans l'esprit quelque chose. Et il y a quelques soirs au téléphone avec Jeanne, alors qu'on discutait de cette soirée, on a évoqué Bertolt Brecht. Donc, bien évidemment, les peuples en ont eu raison. Mais il ne faut pas chanter victoire, il est encore trop tôt, le ventre est encore fécond, d'où surgit la bête immonde, ce qui est un appel à vigilance pour chacun d'entre nous. Donc avant de me tourner vers nos invités pour les remercier, je voudrais déjà remercier ceux sans qui rien n'arriverait jamais, c'est toute l'équipe technique derrière vous, voilà, avec Laurent, Mathieu... saluer également un compère qui s'appelle Luis Mendez, qui représente un de nos partenaires, l'association Memaudio, MEM_AUDIO, qui met en ligne un grand nombre de contenus à titre tout à fait gratuit, qui met en situation d'accessibilité pour chacun, tout un tas de choses, de débats, etc., et qui est fidèle au chemin de la République, donc vous y retrouverez beaucoup de contenus, y compris cette fameuse soirée du 24 mars dernier, donc vous avez le choix entre la vidéo ou l'audio, si vous l'écoutez en voiture ou autre, et cette soirée, vous allez pouvoir la retrouver dans quelques jours sur le site Mémodio. L'idée, c'est quand même que ces témoignages forts puissent rester et se diffuser. Donc, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Donc, merci également à Gérard Caragosian, sans qui cette soirée n'aurait pas eu lieu. Parce que Gérard a un carnet d'adresses formidable et quel que soit le sujet, il connaît quelqu'un qui peut en parler, donc il n'y a aucun souci. Voilà, c'est un vrai bonheur de travailler avec lui. On regrette son exil volontaire dans le Gard, mais voilà. Mais on s'est dit pas plus tard qu'hier que le Gard c'était toujours l'Occitanie, donc on reste quand même très très voisins. Merci à Raymond Kevorkian d'avoir été parmi nous, d'avoir pris du temps en période estivale avec Vincent également pour nous aider à essayer de concevoir ce cheminement que nous avons essayé d'avoir. Merci à Jeanne d'avoir pris du temps dans un agenda compliqué, chargé, très chargé. Donc merci d'avoir été là. Merci à Dominique Célis qui fait partie des belles rencontres des chemins de la République. À chaque fois, on rencontre de nouvelles personnes et c'est un vrai plaisir. On a pas mal discuté cet après-midi. Merci à Vincent une nouvelle fois et on espère que ce sera suivi de nombreux autres, comme pour chacun. Esther, ce fut un moment merveilleux passé avec vous. Je crois qu'on l'a tous ressenti. Je ne sais pas comment dire autrement que merci infiniment d'avoir été là, d'être ce que vous êtes et de porter tous ces témoignages. Voilà, puis enfin, je voulais m'excuser auprès de chacun d'entre vous. Le rôle est difficile. De devoir couper, tailler, et on aurait pu rester, je pense, 2 heures de plus sans aucun souci. Je connais assez certains d'entre vous pour le savoir, donc j'étais obligé de malgré tout essayer de respecter ce timing. Sur ces mots, je voudrais qu'on rende un petit hommage à un grand monsieur, un grand passeur de mémoire qui s'appelait Angel Fernandez. Qui est décédé le 13 décembre dernier. Nous lui avions consacré une soirée des témoins de l'histoire sur les chemins de la République et c'était une magnifique rencontre là encore. Angel, pour le dire rapidement, a vécu la guerre avec ses yeux d'enfant. Il avait 8 ans en 1936 quand la guerre a commencé en Espagne. 10 ans quand il s'est retrouvé sur les routes de l'exil, 14 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et à peine 20 ans quand il repart en Espagne en tant que militant antifranquiste, se fait arrêter, torturer, condamné à mort. Finalement, sa peine est commuée en 30 ans de réclusion, et il va passer 16 ans dans les prisons de Franco. Il fut un passeur de mémoire infatigable, inlassable, témoignant devant les collégiens, l'auteur de Fragments d'histoire d'une enfance brisée, un ouvrage... voilà. Il avait 86 ans en 2016 quand il entamait un voyage sur les lieux de mémoire à travers le temps. Les souvenirs de ce vieil homme, pétillant, pour l'avoir, chance de l'avoir connu, merveilleux, qui a vu s'inscrire dans sa chair un grand bout de cette histoire du XXe siècle, ce qui donnera le film Angel de Stéphane Fernandez, voilà, qui revient sur ce road movie. Donc voilà, je ne pouvais pas passer cette soirée sans dire un mot à la mémoire de Angel, qui fut aussi un des colporteurs de la République, comme vous l'êtes tous, comme on en croise, et qui a fait un petit bout de chemin avec nous pour porter ce message. Voilà. Merci à vous tous.
Même audio. Vous ne l'avez pas vu ? Vous pouvez l'entendre.